Mes bien chers amis, cette année 1967 marque le jubilé d'or des apparitions de la Vierge Marie à Fatima. Dans quelques jours, en effet, le 13 mai sera le 50e anniversaire de la première d'une série de 6 apparitions. Aujourd'hui, Fatima est célèbre. Tout l'univers catholique y croit. De grandes cérémonies de caractère mondial attirent dans cette petite localité du Portugal des centaines de mille personnes. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Il y eut de l'opposition du côté des autorités civiles de ce temps-là, alors que des athées et des francs-maçons détenaient le pouvoir au Portugal. Il y eut des mises en garde par les autorités ecclésiastiques. Malgré le miracle spectaculaire qui clôtura la série des apparitions, il fallut attendre 13 longues années avant une déclaration officielle de l'autorité diocésaine proclamant qu'il y avait tout lieu de croire au surnaturel des événements de Fatima. Quant aux agences de presse, elles firent si peu de cas de ces faits qu'il fallut encore 10 autres bonnes années avant qu'ils fussent bien connus en dehors du Portugal. Dans la présente émission, je vais résumer brièvement l'histoire des apparitions, puis je vais m'étendre un peu plus sur la période qui les a suivies, quand le peuple, sans l'appui de son clergé, sinon même à l'encontre de son clergé, sut, par sa sainte obstination, faire face aux obstacles maçonniques et affirmer en nombre croissant sa dévotion envers la céleste visiteuse. Les voyants de Fatima furent 3 petits bergers, Lucier si dos Santos, 10 ans, son petit cousin et sa petite cousine, François Marteau, 8 ans, et Jacinthe Marteau, 6 ans. Première apparition le 13 mai. La belle dame ne dit pas son nom, mais déclare qu'elle vient du ciel. Elle leur demande de venir au même lieu, la Cova da Iria, le 13 mai de chaque mois. Elle leur dira son nom le 13 octobre. À la deuxième apparition, le 13 juin, 60 personnes étaient présentes. Troisième apparition, le 13 juillet, 5000 personnes y furent témoins des extases des enfants. Le 13 août, 18 000 personnes étaient sur les lieux, mais les enfants ne furent pas là. Ils avaient été enlevés par le maire franc-maçon d'Ourem, puis séquestrés, interrogés, menacés de mort et jetés en prison, relâchés seulement après avoir manqué le rendez-vous. La dame leur apparut en un autre lieu 6 jours plus tard, le 19 août, pour les encourager. À la cinquième apparition, le 13 septembre, 30 000 personnes étaient là. La dame réannonça que le 13 octobre, elle dirait son nom et ferait un grand miracle pour prouver aux spectateurs la véracité de ses apparitions et des messages sur lesquels elle insistait, la récitation de beaucoup de chapelets, la pénitence, la conversion des catholiques sous peine de voir le communisme à leur naissance se répandre partout dans le monde, la consécration à son cœur immaculé et la communion réparatrice du premier samedi de chaque mois. Le 13 octobre, dernière apparition et grand miracle du soleil devant 70 000 témoins. Jusqu'à midi, la foule était sous la pluie et dans la boue. À midi juste, Lucie cria « Regardez le soleil !» Alors, par 3 fois et pendant 5 minutes chaque fois, le disque du soleil tourna sur lui-même comme une roue de feu, sans faire mal aux yeux, émettant des rayons de toutes couleurs. Puis, se détachant du firmament, il descendit vers la foule qui crut à la fin du monde. La plupart firent un fervent acte de contrition. Puis, soudain, le soleil s'arrête et repend son éclat normal dans le ciel. Chacun peut alors constater que ses habits, trempés de pluie et de boue un quart d'heure auparavant, sont maintenant secs comme s'ils revenaient de chez le nettoyeur. 70 000 témoins. Ce nombre aurait été plus que doublé sans le frein ecclésiastique, on estime en effet qu'environ 90 000 autres personnes ayant l'intention de se rendre à la Cova pour voir le miracle annoncé depuis 3 mois, y avaient renoncé sur la vie de leur curé respectif, ce qu'elles regrettèrent beaucoup par la suite. C'est que, dès le commencement des apparitions, l'archevêque de Lisbonne, dont dépendait alors Fatima, avait interdit aux prêtres de s'en mêler. Le clergé craignait aussi la vengeance du gouvernement au cas où il aurait voulu manifester son appui. Mais le peuple, en nombre croissant, crut, et des pèlerinages s'organisèrent spontanément, surtout le 13 de chaque mois, malgré tous les obstacles posés par les autorités civiles. On avait vu le maire d'Ourem intervenir contre le rendez-vous donné aux enfants pour le 13 août. Encouragé par cet exemple du maire et assuré de ne point être dérangé par la police, des voyous de Santarem se rendirent en auto à la Cova, s'emparèrent des ex-voto et autres articles placés là par la piété des fidèles. Ils renversèrent le portique érigé par des fidèles convaincus et fervents. Les voyous voulurent même abattre le chêne vert des apparitions pour le traîner derrière leur voiture. Par bonheur, ils se trompèrent d'arbre et coupèrent un arbre voisin. Revenus à Santarem, ils organisèrent une procession nocturne assaisonnée de chansons impudiques et accompagnée de blasphèmes, traînant dans les rues les objets apportés de la Cova. Une centaine de personnes participèrent à cette honteuse affaire. Nul n'osa intervenir, sachant bien qu'en arrière de ces voyous, l'autorité officielle du district applaudissait tout ce qui pouvait contribuer à étouffer une dévotion susceptible de réveiller la foi des gens. En 1920, un jeune homme de Terras Novas, récemment converti, avait commandé une statue de Notre-Dame, faite selon la description donnée par les voyants, avec l'intention de la placer dans la petite chapelle de la Cova d'Airia. Quand la statue arriva à Terras Novas, elle fut reçue avec enthousiasme par les foules qui vinrent l'admirer. Cela ne pouvait qu'irriter et alarmer davantage les francs-maçons. Furieux, ils demandèrent au maire de donner des ordres pour que le jeune homme garde sa statue et ne la porte pas à Fatima. Pour s'assurer qu'il serait obéi, le maire fit entourer la maison par des policiers. Mais la statue sortit quand même et traversa le rang des gardes, dissimulée sous des outils de jardinage dans une charrette à bœufs. Elle entra triomphalement à la Cova et elle est encore là aujourd'hui, recevant pour mari les hommages et les supplications de millions de pèlerins. Le 13 mai 1920 approchant, le gouvernement central du Portugal voulut se charger lui-même de prendre des mesures pour empêcher la foule de s'assembler sur le lieu du pèlerinage pour le 3e anniversaire de la première apparition. Il fit poster un escadron de cavalerie et des troupes à pied pour interdire l'approche de la Cova à tout véhicule chargé de pèlerins. Mais la sainte obstination des pèlerins triompha de tout. Descendant des véhicules, ils continuaient à pied, traversant les rangs des gardes. Ceux-ci étaient pour la plupart de bons fils du sol, consentant volontiers à se laisser vaincre. Plusieurs d'entre eux finirent même par demander et obtenir de leurs officiers la permission d'aller prier devant le petit oratoire. Des milliers de pèlerins atteignirent la Cova ce jour-là, et ils en revinrent plus décidés que jamais à résister, à protester contre tout obstacle de la part de fonctionnaires libres de penseurs. Mais les sectaires ne voulaient pas reculer. Dans la nuit du 6 mars 1922, ils firent sauter à la dynamite la petite chapelle qui avait remplacé depuis 3 ans le portique démoli. Les fidèles de Notre-Dame en furent consternés. Mais, détail remarqué, de 5 charges de dynamite disposées pour la destruction, une seule n'explosa pas, celle placée à la racine de l'arbre sur lequel s'était posée l'apparition. L'outrage fait à Notre-Dame souleva une vague d'indignation. Cet acte fut fortement réprouvé par la presse, Des protestations s'élevèrent de toutes parts, même devant du Parlement. Des pèlerinages de réparation s'organisèrent. Dès une semaine après le sacrilège, 10 000 personnes marchaient à pied depuis l'église paroissiale de Fatima à la Cova d'Ahiria pour faire amende honorable. Mais ce n'était pas assez. Tous voulaient une réparation de grandeur nationale. On la fixa au 13 mai suivant, 5e apparition de la première apparition, 5e anniversaire. Ce 13 mai 1920, on évalua à 60 000 le nombre de pèlerins accourus de partout pour le grand acte de réparation. On n'avait pas vu de si gros assemblement à la Cova depuis le jour du miracle du soleil. L'opposition sectaire n'avait donc servi qu'à ancrer davantage la foi du peuple envers la Vierge de Fatima. Cependant, l'ancien diocèse de Lehiria ayant été rétabli, Fatima tombait sous la juridiction de l'évêque nommé à ce siège en 1920. C'était Monseigneur Da Silva, un grand dévot à Marie. Il ne tarda pas à être personnellement convaincu du surnaturel des faits de 1917. Et dès 1921, il acheta 30 acres de terre de la Cova des Apparitions en vue d'une basilique future et des accommodements pour le service religieux des pèlerins dont le nombre s'accroissait. Mais il dut attendre le rapport d'une commission nommée par lui pour enquêter sur les faits, sur les nombreux miracles, sur les remarquables effets spirituels dont bénéficiaient les pèlerins, etc. Et c'est le 13 octobre 1930, au 13e anniversaire du grand miracle du soleil, que l'évêque consacra officiellement le culte public envers Notre-Dame de Fatima. Ce fut le commencement d'une série de triomphes. Consécration du Portugal à Marie par tous les évêques du Portugal réunis à Fatima en 1931. Consécration du monde entier avec mention de la Russie au cœur immaculé de Marie le 31 octobre 1942. Par le pape Pie XII. Couronnement de Notre-Dame de Fatima par le cardinal Mazzella au nom du pape Pie XII le 13 mai 1946 devant 500 000 pèlerins. Choix de Fatima par le pape Pie XII pour la clôture de l'année sainte le 13 octobre 1951. 1 million de pèlerins présents à cette cérémonie. Et d'autres apothéoses encore qui feront le sujet d'une prochaine émission de Vers demain. Pour aujourd'hui, je souhaite que l'exemple des épreuves rencontrées par Fatima durant ces années suivant les apparitions serve à ancrer dans leur foi et leur espérance les centaines de mille personnes qui croient aux apparitions plus récentes de Garabandal en Espagne et qui s'afflige de déclarations et de communiqués largement diffusés depuis quelque temps pour nier le surnaturel de ces apparitions, communiqués et déclarations malhonnêtement présentées pour détourner de la croyance à Garabandal. Agences de presse, journaux, revues, empressés de publier tout ce qu'ils croient de nature à diminuer le culte envers Marie, alors que ces mêmes organes sont remarquablement silencieux quand il s'agit de nouvelles de nature à l'exalter. Que les croyants aux apparitions de Garabandal ne se laissent pas accabler. Ce qui vient de Marie peut être contrecarré, mais non pas définitivement arrêté par les hommes. Comme à Fatima, les ombres passeront et la lumière qui suivra n'en sera que plus éclatante.
Mes amis, nous venons d'entendre M. Louis Hébin, le directeur général et fondateur du journal Vers demain.